Savez-vous que des liens peuvent être faits entre le droit et les sagas telles que Jurassic Park, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Eh bien, c'est ce que nous propose Isabelle Duché de découvrir ce matin.
Que nous apprend la saga du Seigneur des Anneaux sur la représentation juridique des femmes ou de la nature? Étonnante question, me direz-vous, et c'est pourtant sur la base de cette fiction qu'une réflexion juridique est proposée aux étudiants de l'Institut catholique de Toulouse. Son intervenant est l'invité de Radio Présence, Raphaël Morel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Bourgogne. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux » aux éditions Henric. Et vous donnerez, jeudi 27 mars, une conférence à l'Institut catholique de Toulouse sur le thème « Droit et fiction » avec un focus sur Le Seigneur des Anneaux. Alors, j'aimerais quand même commencer par notre entretien par cette question. Qui aurait cru que les fictions pourraient servir de base de réflexion pour des étudiants en droit? Comment, Raphaël Morel, avez-vous eu cette intuition de lier les deux?
Alors, cette intuition, elle date un petit peu, à vrai dire, parce qu'il y a un véritable mouvement en France, et bon, plus largement un mouvement international qui a débuté aux États-Unis il y a déjà de nombreuses années, le mouvement droit et littérature. Mais en France, ça l'a fait une petite dizaine d'années maintenant qu'un groupe d'universitaires se réunit d'abord à Strasbourg, puis à Brest, puis à d'autres endroits de France pour réfléchir à ces, alors d'une part à ces enjeux, les enjeux de la représentation du droit par la fiction, mais aussi pour réfléchir à des moyens pédagogiques d'intéresser nos étudiants aux études de droit et puis au raisonnement juridique, puisqu'en fait, il s'agit d'appliquer un raisonnement juridique à des fictions que tout le monde connaît.
Alors, la Terre du Milieu est dans Le Seigneur des Anneaux, ce continent du monde d'Arda qui se trouve littéralement au centre. Son auteur, Tolkien, estime que la Terre du Milieu n'est pas un monde imaginaire, mais une terre dans laquelle nous vivons. En quoi est-elle pour vous, Raphaël Morel, un système juridique?
Alors, cela part d'une locution latine qu'on connaît, les juristes aiment bien le latin, qui dit en gros, là où il y a une société, il y a du droit. Je vais vous épargner la locution latine. Et donc, à partir du moment où il y a une société, alors là, on parle d'une société où il n'y a pas que des humains, hein, il y a des elfes, il y a toutes sortes de créatures extraordinaires dans l'univers de Tolkien. Mais à partir du moment où il y a des humains et des espèces douées d'intelligence, eh bien, il y a du droit. Voilà l'idée générale. Et donc, ensuite, on peut un petit peu observer la Terre du Milieu, comme j'ai pu le faire dans d'autres ouvrages. J'ai aussi fait, peut-être qu'on en parlera, diriger un ouvrage sur le droit dans la saga Jurassic Park. Donc là aussi, c'est une fiction, Jurassic Park, mais c'est une île où il y a des dinosaures et des humains, et il y a du droit, effectivement. Et donc, dans Le Seigneur des Anneaux, eh bien, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs peuples. Et donc, plusieurs peuples, ça veut dire plusieurs nations qui éventuellement vont revendiquer la souveraineté, vont se faire la guerre. Et donc, il y a plein d'enjeux juridiques. Et puis, il y a aussi des créatures que nous ne connaissons pas sur Terre, qui n'existent pas, qui existent que dans la tête de Tolkien et peut-être des fans. Et donc, on peut se poser la question de leur nature juridique. Est-ce qu'elles ont des droits? Je pense aux Ents, par exemple. Et voilà toutes sortes de questions qu'on peut se poser.
Et si, justement, on poursuit la métaphore sur cette organisation juridique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une société qui pourrait prendre ce modèle de celui du Seigneur des Anneaux?
Oh bah, oui, la nôtre, tout simplement. C'est aussi simple que cela, puisque le Seigneur des Anneaux met finalement en scène des peuples qui vont s'allier, soit de manière coutumière, soit par traité. On nous parle d'anciennes alliances militaires entre les hommes du Gondor et les hommes du Rohan. Donc là, on voit bien qu'il y a deux États, hein, tout simplement. Et puis qui vont s'allier à d'autres. On parle d'anciennes alliances qui n'avaient pas forcément de traité écrit, mais avec des elfes, avec des nains, pour lutter contre un ennemi commun. Et donc là, on peut imaginer, hein, que le Conseil d'Elrond qui se déroule à Fondcombe au début de la trilogie du Seigneur des Anneaux, eh bien, en fait, c'est une espèce de métaphore du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que bah, il s'agit d'aller détruire l'anneau, c'est-à-dire de lutter contre un État qui aurait violé les grands principes du droit international. Et effectivement, Sauron est à la tête d'un État, le Mordor, qui s'est constitué visiblement en annexant des territoires par la force et qui menace d'employer la force ou bien a recours à la force contre d'autres États voisins comme le Gondor. L'Isengard, c'en est un autre exemple. Et donc là, bon bah, si on raisonne avec nos catégories classiques en droit international, on a une violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Et donc, alors évidemment, tout ça n'est pas écrit de manière aussi évidente, mais on peut extrapoler et réfléchir à comment nous, notre société, agirait dans ce type de situation.
Alors, les personnages de la saga Le Seigneur des Anneaux sont nombreux et très différents, vous l'avez dit, Raphaël Morel. Je le disais en introduction, vous vous interrogez sur la femme et sa représentation juridique. En tout cas, c'est plutôt cet ouvrage qui peut nous permettre de nous interroger. Qu'est-ce que vous en déduisez?
Alors, ce chapitre, c'est vrai, Où sont les femmes dans le Seigneur des Anneaux, a été rédigé par ma collègue Delphine Tarrou, qui est professeure à l'université de Limoges. Et c'est vrai qu'elle constate que dans la saga Le Seigneur des Anneaux, il s'agit essentiellement d'hommes. Hein, et la personne de la femme est assez peu présente, même si chez les elfes, on a des femmes qui sont très puissantes, qui sont à la tête plutôt de sociétés. Donc, c'est une société qui est assez inégale. Égalitaire. Il y a ici une référence tout simplement à l'époque à laquelle Tolkien écrit. Tolkien écrit à une époque où la place des femmes n'est pas la même que celle dans notre société, et il va Tolkien va mettre en scène des femmes de la même manière que lui vit la société de son époque. Il faut se rappeler que Tolkien écrit beaucoup dans les tranchées, hein, de la Première Guerre mondiale, donc on n'est pas du tout dans la même époque. Mais ceci dit, ça peut nous permettre de réfléchir. Et donc là encore, de la même manière qu'on prend la fiction comme un vecteur de représentation du droit, eh bien on peut le voir aussi comme un vecteur de représentation d'une société à un moment donné. Et on peut le prendre comme objet pour réfléchir à bah, est-ce que c'est le type de société finalement que nous souhaitons? Il y a aussi des choses positives hein, dans l'apport de la femme dans Tolkien. On pense par exemple à Éowyn, hein, qui est une héroïne et finalement la salvation pour anéantir le roi sorcier des Nazgûl. Eh bien, c'est une femme. Donc il y a quand même des messages qui sont très positifs. Hein. On peut peut-être pas parler d'une œuvre féministe, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, ça nous permet de réfléchir. Et dans tous les cas, ça aiguise l'œil critique. Et c'est ça qui est aussi important avec ce type d'ouvrage que j'ai voulu diriger et que les auteurs ont bien voulu écrire avec moi. C'est de tout simplement déguiser notre regard critique sur une représentation du monde.
Vous avez cité Raphaël Morel, ces Ents, qui sont des sortes d'esprits de la forêt, hein, des créatures qui ont l'apparence d'arbres. Et vous avez dit que ça permettait aussi de s'interroger sur leur nature juridique. J'aimerais bien que vous développiez ce point.
Oui, bah écoutez, les Ents, ils sont des personnages assez particuliers puisqu'ils se présentent eux-mêmes comme étant hors de la société. Hein, ils vivent dans leur forêt un petit peu reclus. On ne sait pas trop à qui appartient leur forêt justement. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de la nature juridique de l'Ent. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre? Est-ce qu'il s'agit d'un humain? Certainement pas, mais d'un animal. Et là encore, un petit exercice de qualification juridique. Si on croisait un Ent dans une forêt, je prends dans le chapitre que j'ai rédigé. L'exemple de la forêt du Morvan, une forêt du Morvan où il y a beaucoup de belles choses là-bas, et eh bien finalement, comment réagirait-on face à ces Ents? Alors là, par rapport au droit français, on pourrait dire que les Ents, ce ne sont pas des personnes, ce sont des biens qui ne sont pas vraiment des biens immobiliers, puisqu'ils sont capables de bouger, même s'ils sont des arbres, mais on pourrait leur appliquer à peu près le même régime juridique que celui de l'animal, sachant que voilà, on a une loi le 16 février 2015 qui a créé un nouvel article dans le code civil qui affirme que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et donc c'est sans doute la qualification d'article 515-14 du code civil qu'on pourrait appliquer aux Ents. Ce qui est intéressant dans Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'à la fin le nouveau roi Aragorn leur donne un territoire, leur confie un territoire. Et donc finalement on voit le passage de la personne qui serait simplement un être doué de sensibilité en droit français à une personne beaucoup plus élaborée, un groupe de personnes, et donc j'y vois, à mon sens, hein, dans la société des Ents, qui a ses propres règles, une forme de petit ordre juridique. Et donc on peut faire un peu de théorie du droit en réfléchissant à ces Ents. Et donc finalement, voilà, ils ont leur structure de gouvernance, ils peuvent décider eux-mêmes d'entrer en guerre ou non, selon des codes et des langages qui ne sont pas ceux des autres. Et puis à la fin, on leur donne un territoire avec une mission qui est de protéger ce territoire. Donc je parle un petit peu de droit entique dans ce chapitre.
Ouais, alors si on imagine une société qui ne serait gérée et habitée seulement par des animaux, enfin, ça laisse songeur quand même.
Oui, effectivement. Mais voilà, les bon, rappelons-le, n'existent pas, hein. Mais c'est encore une fois un bel exercice de réflexion. Et puis il y a aussi toute une, au-delà, hein, de la question strictement juridique, hein, il y a la question du rapport à la nature.
Bien
Et donc
sûr.
plus loin, de quel droit on voudrait donner à la nature, qui seraient les gardiens de la nature. Là, Tolkien trouve une interface qui est l'Ent, qui va être le gardien de la forêt. Très bien, nous, dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? On veut protéger des forêts, on veut. Dans certains pays, on donne des droits ou en tout cas une personnalité juridique à des fleuves, à des montagnes. Bon, ben finalement, ce sont les humains qui vont pouvoir exercer les droits que l'on donne à ces éléments naturels. Tolkien, lui, il a trouvé la solution en inventant des Ents.
Oui, c'est ça, l'être humain est gardien de la création, comme on dit. Dans votre livre, Le droit dans la saga Le Seigneur des Anneaux, vous proposez d'appréhender le droit constitutionnel avec Bilbo le Hobbit. Alors là, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez le lien parce que j'ai un peu de mal à le voir.
Oui, alors là, c'est encore une fois un chapitre que ce n'est pas, que je n'ai pas moi-même signé, puisque j'ai dirigé l'ouvrage,
Pas
hein,
de chance.
j'en ai écrit une partie, mais ce n'est pas moi qui ai tout écrit. Et là, c'est mon collègue, le professeur Mathieu Touzaï-Divina, qui est de l'université de Toulouse, Capitole, qui a écrit ce chapitre sur Bilbo le Hobbit, et qui part en fait de son cours de droit constitutionnel en première année. Tout simplement, puisqu'il prend pour exemple Bilbo le Hobbit, et il fait essentiellement de la théorie, mais il utilise l'idée selon laquelle le droit va être une arme sociale, notamment dans le cadre du jeu avec Gollum, hein, lorsqu'il va récupérer le fameux anneau. Et donc voilà, il y a toute une réflexion autour du contrat social, autour de l'aventure de Bilbo le Hobbit, qui est assez intéressant, qui est même extrêmement intéressant. Et on a Mathieu Touzaï-Divina nous propose plusieurs citations du Hobbit et puis du Seigneur des Anneaux sur le pouvoir, la liberté, la justice, à partir vraiment d'extraits du texte Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est difficile de le résumer en quelques minutes,
Oui.
mais il y a des choses sur la répartition du pouvoir grâce aux anneaux, etc. Voilà, il faut lire ce chapitre.
Oui. Et vous utilisez aussi, grâce au Seigneur des Anneaux, ça vous permet de traiter des questions de droit d'auteur. Alors c'est vrai que le langage créé et utilisé par Tolkien est atypique. Est-ce que, on pourrait imaginer qu'il puisse être, protégé comme serait, l'œuvre littéraire d'un auteur?
Oui, bah, tout à fait. C'est justement la question qui est posée, hein, lorsque l'on crée des langues. Et donc oui, on pourrait imaginer effectivement que les langues. Alors il y a même deux niveaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a la création de Tolkien en elle-même. Est-ce qu'on pourrait protéger la langue déposée que l'on aurait éventuellement déposée lorsqu'on crée une langue? C'est des questions qui existent, hein, lorsqu'on a des nouvelles langues comme l'espéranto, par exemple, qui sont créées. Il n'y a pas que l'espéranto. Il y en a d'autres effectivement, mais et puis on peut aussi se poser la question dans le roman, voilà, à qui appartient la langue. Et là, ça nous ramène à des questions de droit constitutionnel, de protection des minorités linguistiques en particulier. Donc il y a plusieurs manières de voir cela. La question dans l'ouvrage est traitée par mon collègue Yann Bazir de l'Université de Strasbourg, qui lui prend l'angle la place du droit d'auteur dans la question, et qui va tenter de définir les langues avec les catégories du droit français, et notamment la propriété intellectuelle. Il fait appel aussi à la jurisprudence américaine, et donc il pose la question de la nature des langues fictives, en faisant d'ailleurs une analogie avec le langage informatique pour les protéger. Donc ça, c'est le raisonnement propriété intellectuelle. Mais on peut aussi, voilà, raisonner en matière constitutionnelle, en matière de protection des langues et des minorités pour avoir un autre regard.
On imagine en tout cas que les étudiants doivent être captivés par ce genre de lien pour, voilà, pour découvrir toutes les matières du droit grâce au Seigneur des Anneaux ou à Jurassic Park ou Harry Potter. Merci beaucoup, Raphaël Morel.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Bourgogne. Vous donnerez une conférence à l'Institut catholique de Toulouse sur le thème droit et fiction, avec un focus sur le Seigneur des Anneaux, jeudi 27 mars à 17h30. C'était le grand entretien de Radio Présence. Je vous remercie de l'avoir suivi.